Nos mémoires. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une émission Nos mémoires. Partir de ce qui est écrit, de ce qui a été écrit pour comprendre ce qui a été, c'est l'ambition des émissions Nos mémoires qui vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire de l'Amérique à travers les écrits de Georges Clemenceau. Homme d'État français, président du Conseil, radical et anticlérical de la Troisième République, sa posture de journaliste est bien moins connue que son action politique en France. Georges Clemenceau, c'est avant tout un étudiant en médecine qui part à 24 ans pour découvrir ce continent sur lequel avait écrit Tocqueville quelques années auparavant. Et il est alors correspondant pour le journal Le Temps à partir de 1864, soit à la fin de la guerre de sécession qui déchire à cette époque-là le continent américain. Cette correspondance entre Georges Clemenceau et le journal Le Temps en particulier, même si Georges Clemenceau n'a pas écrit uniquement pour Le Temps, a fait l'objet d'une édition aux États-Unis dès les années 1928. Et aujourd'hui, les éditions Passé Composé nous proposent de redécouvrir ces écrits de Clemenceau. Je suis très heureuse de recevoir Patrick Veil, qui a co-dirigé avec Thomas Massé la publication et le commentaire des Lettres d'Amérique de Clemenceau. Bonjour Patrick Veil.
Bonjour.
Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, et vous êtes donc intéressé sur ce qu'a écrit Clemenceau, ce qui nous permet un petit peu d'approcher les débuts de sa vie, mais également toute l'influence qu'a pu avoir la vie politique américaine sur sa propre action politique. Alors, pourquoi Clemenceau, qui se prépare à être médecin, décide-t-il de partir s'exiler sur le continent américain ?
C'était un médecin, fils de républicain, engagé, lui-même engagé, et il souffrait sous le régime autoritaire de Napoléon III, et il était intéressé d'aller voir la première grande république démocratique, je dirais, qui venait de souffrir d'une terrible épreuve, qui était la guerre civile, voir cette démocratie en action, et pas simplement lire sur elle ce qu'il avait fait avec Tocqueville, mais la voir, voir ses dirigeants, ses habitants, ses citoyens, et c'est ce qu'il fait pendant plus de 4 ans.
C'est la curiosité en fait qui le pousse à aller découvrir.
La curiosité, une peine d'amour. Enfin bon, il est même pas sûr de revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que il est pris de passion, si l'on peut dire. Si on lit ses lettres, elles sont passionnantes. Parce que c'est une période incroyable de la vie politique américaine, cette période d'un affrontement entre le successeur de Lincoln, qui se retrouve là, il n'aurait jamais dû être président des États-Unis, il n'est là que parce que Lincoln a été assassiné, et il est partisan d'une réintégration des États du Sud dans la République sans quasiment leur demander quoi que ce soit. Et progressivement, le Congrès, qui était républicain, donc ça veut dire à l'époque anti-esclavagiste, les républicains, les démocrates à l'époque, c'est le parti de l'esclavage, et les républicains, le parti anti-esclavagiste. Bon. Les républicains se radicalisent sous la politique réactionnaire du président Johnson, et Clemenceau va assister et va décrire les mouvements politiques, les mouvements sociaux. C'est un livre de science politique, de science électorale. Il dit attention, cette élection partielle va avoir tel impact, mais attends, ça ne veut pas dire que l'élection prochaine va avoir la défaite. Enfin, il va assister à des joutes parlementaires libres, puisque qu'est-ce que c'est que le Parlement sous Napoléon III ? C'est pas exactement la liberté. Donc là, vous avez, il va apprendre des plus grands orateurs, et notamment d'un homme qui va faire toute son admiration, qui est le chef des radicaux républicains à la Chambre des représentants, qui va mourir de maladie j'allais dire en action, à la chambre quasiment, Thaddeus Stevens, qui va être son inspirateur sur la façon de prendre la parole, de ne parler que quand on a quelque chose à dire, d'utiliser, choisir ses mots, d'être en même temps porter le fer. Donc il va être formé, et du point de vue de l'art oratoire et de l'art politique, et du point de vue des idées. Il va être formé aux États-Unis, et l'absence de ces lettres d'Amérique, de ces 100 articles qu'avec Thomas Massé nous avons retrouvés, est incompréhensible, parce que ça nous permettait pas de comprendre combien Clémenceau, et on le dit dans notre préface, reste profondément attaché à l'Amérique, puisqu'on va le voir ensuite, après la Première Guerre mondiale, faire un voyage, 53 ans après son dernier voyage, en 1922, envisager un autre voyage en 1928, alors qu'il a 80, il aura 87 ans, il envisage de repartir pour s'appuyer sur le peuple américain contre ses dirigeants. Qui ont trahi la France après le traité de Versailles. Enfin, c'est assez extraordinaire, cette relation de Clémenceau à l'Amérique.
Et ce que vous évoquiez, ces voyages donc à la fin, enfin ces derniers voyages, il se reconnaît citoyen américain. Est-ce que dès le début, il tombe amoureux de l'Amérique et...
Alors, c'est assez extraordinaire, et c'est peut-être... Il rassemble des énormes foules. Quand il fait son voyage en 22, il est aussi, pour les Américains, le père la victoire. Les Américains avaient rejeté Wilson dans les dernières années de son deuxième mandat. Ils admiraient Clémenceau d'aller au front. Tandis que Wilson, qui est arrivé après la fin de la guerre, après l'armistice, n'a même pas été voir les soldats américains. Il a fallu que son chef de cabinet lui dise « Écoutez, le peuple américain, quand même, est un peu choqué que vous n'alliez pas voir les soldats. » Bon, donc Clémenceau, lui, allait voir les soldats. Et dans les cinémas d'actualité, dans les séquences d'actualité qui passaient au cinéma, Wilson et Lloyd George, le premier ministre britannique, étaient poliment applaudis. Et Clémenceau était...
Acclamé.
Bon. Et quand il arrive aux États-Unis en 22, il est parti contre l'avis du gouvernement français de l'époque. Le gouvernement américain ne l'accueille pas. Et ben, c'est les foules américaines qui l'accueillent. Et il commence tous ses discours en disant, écoutez, je vais vous faire une confidence. Je vous demande de me considérer comme citoyen. Ça s'est joué à quelques mois. Je suis resté 4 ans et 4 mois, et j'ai travaillé dur pour mériter le titre de citoyen américain, le titre et les obligations. Mais pour bénéficier de ce droit que vous avez, et là on en vient aux valeurs auxquelles il tient, de dire tout ce que vous voulez sur tous les sujets de la Terre. Ça, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, à laquelle il tient énormément. Par exemple, il va être, sous la Troisième République, contre le délit d'offense au président de la République, qui va être institué dans les années 1880. Donc, il revient des États-Unis avec un attachement très fort à la liberté de conscience, à la liberté d'expression, et au combat anticolonial. Et je dirais, ce qui est formidable avec Clémenceau, c'est que sur le spectre politique français, à l'époque, quand il revient, il est d'extrême gauche. Il termine à droite. Mais ces trois valeurs-là, liberté de conscience, une laïcité respectueuse aussi, mais il est anticlérical à fond, mais il est respectueux des croyants, de leurs droits. Liberté d'opinion, journaliste, vraiment avec une plume acérée, et puis anticolonialiste jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est un autre Clémenceau qu'on découvre, mais un Clémenceau beaucoup plus profond, beaucoup plus durable tout au long de sa vie que le premier flic de France qu'on a tendance à nous vendre, alors qu'il a été ministre de l'Intérieur pendant 2 ans de sa vie.
Comment commence sa collaboration avec le journal Le Temps ?
Alors, il semblerait qu'il s'est par l'intermédiaire d'un ami, et ce que il paraît probable, mais nous ne l'avons pas affirmé, faute d'en être certain, c'est qu'il a déjà commencé à préparer son premier article, déjà sur le bateau, où il va pouvoir parler avec des Américains, évidemment, parce que le premier article sort vraiment très tôt après son arrivée à New York. Donc c'est comme s'il l'avait envoyé immédiatement, comme s'il l'avait déjà un peu préparé. Donc il commence cette collaboration. Il n'est pas payé au départ. Après, il va l'être. Il n'écrit jamais sous son nom. Hein, donc il faut, pour retrouver les 100 articles, il a fallu faire un petit travail de bénédictin pour soit trouver Clémenceau sous des pseudonymes, soit sans signature. Voilà. Mais c'était le correspondant du Temps aux États-Unis.
Quelle est la ligne éditoriale du Temps et est-ce que cette ligne évolue alors que Clémenceau est correspondant en Amérique?
Bon, c'est une ligne libérale, libérale au sens politique, c'est-à-dire critique du régime autoritaire de l'Empire. Mais on n'est pas certain de savoir si certains passages de Clémenceau n'ont pas été coupé, on n'a pas des textes originaux, mais franchement, ça n'apparaît que si c'était le cas, ça serait vraiment sur des tout petits extraits. Franchement, on retrouve son style, on retrouve dans tous les articles que nous publions pour la première fois donc en français, on retrouve vraiment Clémenceau.
Alors vous proposez ces lettres en les distinguant par période, quelles sont ces trois périodes et comment elles montrent une évolution dans la pensée de Clémenceau et peut-être une évolution du style également?
Écoutez, on a voulu surtout, il y a des allers-retours, il fait des allers-retours, vous voyez, donc il se passe 4 années, donc on a voulu scander, je dirais, les... Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un changement de style. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'il vogue, il suit l'évolution de l'opinion américaine, notamment vis-à-vis du président Johnson, qui est très bien accueilli au départ, et qui va être rejeté, et il reflète, si vous voulez, lui, se radicalise avec les radicaux, avec les républicains qui se radicalisent, voilà. Donc c'est ça qu'on voit. Donc c'est quelque part, il reflète l'évolution, il adhère aux leaders radicaux-républicains qu'il découvre et qu'il admire. Et alors ce qui se passe, c'est que il va vivre la période de la campagne présidentielle de 1868, qui est très intéressante parce que, oui, Johnson a été... Alors, on dit en anglais, c'est assez difficile. Impeach, ça veut dire que la Chambre des représentants l'a mis en procès. Mais il n'a pas été renvoyé, comme Trump exactement, mais à une voix de majorité. Ça s'est joué au Sénat. Donc il a failli être renvoyé. Et donc il raconte le procès. Il raconte le procès de Johnson devant le Sénat et devant la Chambre. Et après, Johnson se représente. Alors il fera très peu de voix parce qu'il... Mais... et puis aujourd'hui, en 2020, c'est la première fois que depuis 1868, vous avez un président impeach qui se représentait et qui a aussi été battu, comme Johnson l'a été. Sauf que Trump l'a été de peu. Bon. Mais c'est très intéressant de voir aussi, et c'est ce que note le préfacier américain de notre livre, Bruce Ackerman, c'est que Clémenceau fait une lecture de l'Amérique qui est à l'opposé de celle de Tocqueville. Tocqueville était arrivé dans un moment de calme. Alors qu'il y avait eu 20 ans de quasi-guerre civile après l'adoption de la Constitution américaine. Mais ça, il est arrivé, je dirais, plus tard. Il n'a pas décrit cette période de guerre civile qu'il n'a pas connue, guerre civile politique. Il a décrit un pays qui est assis sur un réseau d'associations locales, avec une et Clémenceau décrit une autre Amérique, avec des affrontements de principes, avec des milices qu'on mobilise comme Trump, tout ça, des gouverneurs qui essayent de prendre le pouvoir par la force, etc. Et donc, quelque part, c'est une autre façon d'aborder l'Amérique qui nous est présentée. C'est pour ça qu'il a titré sa préface « Clémenceau, contre Tocqueville. Et c'est passionnant de voir cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que, ce que dit aussi Ackerman, c'est que, comme il n'écrivait pas tous les jours, ce que faisaient les journalistes américains, qui écrivaient pour leur quotidien, tous les jours, ils faisaient un article sur ce qui se passait. Donc ils étaient le nez sur le guidon, comme on dit. Donc ils n'avaient pas de perspective. Clémenceau, lui, non seulement il écrit tous les 8 ou 10 jours, mais il sait que sa lettre va mettre 15 jours pour arriver. Donc il peut pas écrire, il faut qu'il écrive des choses qui ont une portée au-delà du quotidien. Et ça, ça donne quelque chose. Ce sont des réflexions, c'est vraiment comme des articles de, je dis pas de revue, mais c'est quand même des articles qui sont dans l'actualité, mais qui sont pas le nez sur l'actualité.
Il était un peu au Pôle Magazine, en fait.
Exactement. Exactement.
Quel est l'héritage intellectuel de Clémenceau? Quelle est sa vision philosophique des choses et en quoi ça va l'influencer pour comprendre l'Amérique? Alors, Tocqueville, il le lit, mais il le conteste.
Oui.
Et quels sont les autres penseurs philosophiques ou encore les historiens qui l'aident à comprendre cette Amérique en
Alors,
crise?
Alors, il est, comment dire, il est le traducteur de John Stuart Mill sur Auguste Comte, donc il est influencé par cette pensée. Mais, moi, je dirais que il devient vraiment journaliste. Et il va le rester. Au fond. Dès qu'il a une pause dans sa carrière politique, et même tout au long de sa carrière politique, il écrit dans la presse. Française, hein, après. Donc, en fait, Clémenceau est devenu journaliste à ce moment-là. Ce qui veut dire que il vérifie les faits, enfin, il explique, enfin, il est très, comment dire, empiriste, c'est-à-dire, voilà, il rapporte, la presse dit ça, etc., il est méfiant vis-à-vis des dépêches d'agence, il s'intéresse aux faits, à leur interprétation, et puis, surtout, ce qui est tout à fait frappant, je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, c'est que, on démarre avec des histoires de billets verts, enfin, vous voyez, comme un journaliste correspondant à l'étranger, il doit faire tout. Il peut pas se contenter que de faire les domaines où il est, qu'il aime, où il est compétent, la politique, obligé de traiter d'affaires diverses qui font l'actualité, notamment la question de la dette de l'État, de l'impression des nouveaux billets verts, c'était tout à fait nouveau à l'époque, etc. Donc en fait, il apprend un métier. Alors, quand il revient en France, il va immédiatement s'investir dans la politique, mais il va rester journaliste.
Il a un rapport assez scientifique.
Voilà, exactement. Voilà.
Clémenceau, on le connaît parce qu'il a beaucoup lutté contre le colonialisme en France. En Amérique, il milite pour l'abolition de l'esclavage.
Il est pour après les proclamations de Lincoln, si vous voulez, cette abolition rentre dans le droit, ce qui est très important aux États-Unis. On se contente pas de déclarations qui n'ont pas d'effet juridique, mais que ça rentre vraiment dans le droit.
Oui, il veut que les choses soient dites, qu'elles soient claires. Est-ce qu'il attend, il attend un pardon? Comment il imagine que la question se règle entre le Sud et le Nord?
Alors, ce que lui considère, et ça restera, je pense, une ligne de conduite. Il considère qu'il faut l'égalité des droits, l'égalité devant la loi. Et que de cette égalité, plus de l'éducation, du droit à l'instruction, les discriminations qu'il note, sociales, profondes, le fait qu'on n'ait pas attribué aux esclaves un terrain et une mule, enfin moi je veux dire, il dit, ça ira mieux à cause de l'égalité des droits, donc c'est pour ça qu'il se bat pour ça, et le droit à l'instruction. Évidemment, il était trop optimiste. Mais, alors, il a des préjugés. C'est-à-dire, il pense que quand même la civilisation occidentale est supérieure, enfin pas supérieure, mais en tout cas que, voilà. Mais il n'est pas raciste au sens où, au contraire, d'ailleurs, il dénonce le racisme, le terme niggers qui est employé contre les noirs. Mais il dit, voilà, pour atteindre le niveau de connaissance de culture, ça va falloir du temps parce qu'ils ont été privés d'accès à l'éducation.
Le salut par l'éducation?
Oui, c'est très important. Il n'était pas socialiste, il le dit déjà à l'époque. Il n'est pas socialiste, mais il est radical. Et radical, vraiment, pour le droit à l'instruction, il est radical. C'est-à-dire qu'il veut que chaque enfant voit ses chances à travers une éducation, l'égalité dans l'accès à l'instruction.
Comment Clémenceau définit-il le radicalisme, justement ?
Je le vois défini comme sans concession. On ne va pas faire de concession. On est pour l'abolition de l'esclavage, sans concession. On est pour l'égalité des droits, sans concession. On est pour le droit à l'instruction, sans concession. Ça veut dire qu'on ne fait pas de compromis sur ces sujets. C'est absolu. Voilà. On peut pas faire de compromis sur les principes. C'est en ce sens qu'il est radical, selon ce que je lis de lui aux États-Unis. Alors après, la doctrine du radicalisme de Clémenceau, d'après, je ne la connais pas, mais là, ce que je vois, c'est ça.
Oui, c'est quelqu'un d'absolu,
voilà.
Qui rêve d'égalité dans l'absolu, qui rêve...
Oui, mais l'absolu, avec dans la Constitution américaine, c'est concret. Oui.
Est-ce qu'il n'est pas un peu idéaliste, Clémenceau?
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il dit de Stevens, je vais le citer parce que c'est, vous voyez, il dit de Stevens qui était son héros. On l'a beaucoup accusé d'étroitesse d'esprit. Ça veut dire qu'il s'était, il avait qu'une seule idée, c'était l'abolition de l'esclavage. La vérité est qu'il s'était mis des œillères pour mieux voir et il les garda toute sa vie. Donc je crois que ça correspond à ce qu'il veut dire. Ça veut dire que il n'était pas idéaliste. Il se fixait quelques objectifs. C'est un peu comme pendant la Première Guerre mondiale. Vous voyez, il y avait un ou deux objectifs, et puis il s'y tenait. Voilà. Tout était déterminé par cet objectif, toute l'action. Et je pense que c'est une bonne façon de faire triompher des idées, que d'en avoir une ou deux que l'on veut faire aboutir.
Un petit peu comme sa volonté d'instaurer la paix. Si je ne me trompe pas, après le premier conflit mondial, il est un peu inquiet sur cette paix, et pour lui, cette paix permanente, elle ne peut durer que si on met fin à l'Empire.
Alors ça, c'est un... J'allais dire, c'est une découverte que j'ai faite en lisant un journaliste américain qui suivait la conférence de la paix à Paris, et qui raconte que Clémenceau en avait tellement marre d'entendre Wilson parler de la paix perpétuelle, auquel il lui dit, mais moi j'y suis très attaché, vous y êtes vraiment attaché, et si vous y êtes vraiment attaché, ben, vous savez, il faut en payer le prix, et moi je suis prêt à le payer, le prix, mais vous, êtes-vous prêt à déclarer la fin de nos empires et à ne pas ensuite instaurer, après cette fin des empires, une domination économique, etc. Donc c'était quand même absolument incroyable. Et c'était, comment dire, absolument connu dans la délégation française que Clémenceau était anticolonialiste et qu'il ne voulait pas récupérer des colonies allemandes, que ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était la sécurité de la France en Europe. Voilà.
Est-ce que Clémenceau va signer avec d'autres journaux français et avec
pas à cette époque.
Pas du tout à cette époque.
Non, pas à cette époque.
Et aux États-Unis et en Amérique.
Non.
Non plus.
Non. Il se consacre à cet article pour le temps et il enseigne le français et l'équitation dans un collège de jeunes filles à Stamford dans le Connecticut. Et là, il va rencontrer sa femme. Voilà.
Quelle est sa vie en Amérique à Clémenceau? Est-ce qu'il est entouré d'autres Français?
Alors, pas beaucoup d'autres Français. Il voit un libraire, mais il a tout de suite une vie sociale active, downtown New York. Il habite New York et il va à Washington, où il va dans le Sud. À Washington, il va régulièrement pour suivre l'activité politique, la capitale fédérale, mais qui est un tout petit village à l'époque. Et puis, il va parfois plusieurs semaines dans le Sud pour voir. Et là, il découvre les horreurs de la fin de l'esclavage, ce que deviennent les esclaves sans droits, sans ressources, etc.
En France, il est lu par les lecteurs du temps, mais est-ce que ces articles ont un retentissement qui dépasse un peu?
Alors, c'est une très bonne question. C'est une magnifique question pour un nouveau projet de recherche, pour un étudiant ou une étudiante qui nous écouterait. Les impacts des articles de Clémenceau en France pendant 4 ans. Ça, je dois dire que c'est intéressant, parce que ce qui se passe, c'est que comme personne, lui savait qu'il était l'auteur de ces articles. Mais plus tard, on ne sait pas, dans la vie politique, on lui dit, bah, voilà ce que vous avez écrit à tel moment, etc. On ne l'attaque pas sur ses écrits, on ne sait pas que c'est lui. Donc il garde ça comme un secret. C'est sa formation secrète que là, qui est révélée là, avec ce livre. Mais, alors, est-ce que ces articles anonymes, ou signés de noms qui sont genre pas connus, ont eu un impact? Écoutez, je suis pas sûr que ça vaille une thèse, hein. Ça vaut peut-être un article. Je veux pas, surtout pas engager les étudiants sur des, dans des impasses. Mais il est vrai que on s'est posé la question, mais ça aurait demandé des mois, des années de travail, et il fallait déjà sortir les 100 articles.
Patrick Veil, quel est l'article ou les articles qui vous ont le plus marqué et ceux qui vous ont aidé à comprendre un peu mieux la politique de Clémenceau en France, donc après avoir...
Alors moi je dirais qu'il y en a trois. Il y a celui sur Thaddeus Stevens, les deux articles qu'il consacre en hommage à Stevens, dont on découvre qu'il est son héros, qui est le leader des radicaux républicains à la Chambre des représentants. Voilà. Alors, je pense que ce qui est très important aussi, c'est son analyse d'élection américaine. Le carnaval, tous les 4 ans, la lettre du 23 septembre 68, qui est incroyable, où il fait l'analyse absolument tout à fait actuelle de l'élection américaine. Et puis enfin, je dirais qu'il y a ce qu'il dit sur la question du racisme, de la discrimination, du colonialisme, de l'esclavage. C'est l'honneur de l'esprit humain que la revendication subsiste tant que la justice souffre. Il ne peut y avoir qu'une manière de supprimer les questions, c'est de les résoudre dans le sens de la justice. Alors ça, il le dit en pensant que ça y est, la question... La révolution émancipatrice est aujourd'hui terminée parce que l'imprudente violation du droit qui l'avait rendu fatal est à la fois expiée et réparée. Il a tort là-dessus, c'est pas fini. Mais ce qui est très clair, c'est que, et ça, il y a eu tout un colloque sur Clémenceau et la justice, il y a cette idée-là qu'il faut faire justice. Il faut que le droit soit inscrit dans la loi et il faut qu'il soit fondé sur la justice. Et c'est peut-être utopique, mais je crois que c'est fondamental. Sans doute aujourd'hui, on entend beaucoup dire les gens « Ah oui, mais la République, c'est l'égalité formelle, ça suffit pas, il y a des inégalités, etc. » Oui, mais quand il n'y a pas l'égalité formelle, il y a encore plus d'inégalités. Je vais vous donner un exemple. Il y a en France le droit à l'instruction, qui est dans notre... qui est dans nos préambules et qui devient un principe constitutionnel. Ça n'existe pas aux États-Unis. Donc vous avez des endroits où il n'y a pas d'école. Alors vous pouvez dire, oui, mais notre école, il y a des discriminations, il y a des inégalités. Oui, mais il y a des écoles partout. Alors, après, c'est une base de départ. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé au bout, à l'idéal de justice complet. Mais quand il n'y a même pas l'affichage d'un droit dans la loi, on part de beaucoup plus bas. Et je pense que, voilà, ça c'est la République qui écrit dans ses lois des textes qui affirment l'égalité des citoyens. C'est pas suffisant de les affirmer dans des textes, mais c'est déjà une base de départ.
Oui, ce qui n'a pas empêché au début du XXe siècle d'expulser les congrégations et d'interdire quand même grand nombre... d'école.
Mais c'est pas lui.
C'est pas Clémenceau.
Non, c'est
on
pas
parle
lui.
De la République.
C'est pas lui. Lui n'était pas, il était pas du tout, il était assez, il a tout de
il
suite
était plus mesuré.
Il a tout de suite arrêté le comptage des candélabres dans les églises en disant aucun inventaire ne vaut, enfin, une vie d'homme, etc. Donc il était à la fois très anticlérical, mais il était respectueux des croyants. Et ça, c'était assez américain, je dirais.
Merci beaucoup Patrick Veil.
Merci à vous.
Pour cette synthèse de ces lettres d'Amérique. Alors je vous invite bien entendu, chers auditeurs, à les parcourir, à les lire. Ça permet de saisir un petit peu mieux la personnalité de Clémenceau et de comprendre la politique française de ce début du XXe siècle. Je vous rappelle que l'ouvrage vient de paraître aux éditions Passé Composé. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, Nos Mémoires.